Campagne, bonjour. Nous sortons de la grande région Occitanie, ses 12 départements, pour aller vers une aussi grande région, la Nouvelle-Aquitaine, 12 départements. Cette semaine, nous sommes en Charente, département peu peuplé, puisque la densité bien inférieure à la moyenne nationale est entre deux recensements. Elle ne bouge pour ainsi dire pas. Je vais éviter les réflexes attachés au territoire de la gamme Cognac et bande dessinée à Angoulême. D'ailleurs, la bande dessinée est un peu décimée en ce moment, avec la Cité internationale d'Angoulême qui connaît un déficit financier qui la pousse à licencier 6 salariés de l'établissement, c'est pas gay. Comme toujours, nous allons parler des versions positives des initiatives, à commencer par l'opération Éco-défi des artisans commerçants engagés par la Chambre de métiers et de l'artisanat de Charente. Fantine Alibeu va s'en expliquer. Et puis une étrange question qui a des raisons d'être posée. La femme est-elle l'avenir de la ferme? Cette interrogation a dirigé le magazine Village vers une enquête sur une évidente féminisation des métiers de l'agriculture. Réponse tout à l'heure avec Sylvie Le Calvez, directrice de publication du magazine Village.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Fantine Alibeu, bonjour.
Bonjour.
Fantine, vous êtes conseillère en développement durable à la Chambre de métiers de l'artisanat de Charente pour un programme, une opération d'ailleurs, qu'on appelle l'éco-défi des artisans commerçants, qui n'est pas une démarche tout à fait récente parce qu'elle a déjà été imprimée chez vous à Angoulême en 2013.
Exactement, ouais. On l'a lancé pour la première fois sur la ville d'Angoulême uniquement. Et puis, ben, elle a fait des petits depuis, puisqu'on l'a déployé sur le territoire charentais l'année suivante, en nord du département. Et cette année, donc, c'est la quatrième édition qu'on a déployée aussi sur tout le Grand Angoulême et puis l'est du département.
Éco-défi, c'est un label qui reconnaît la bonne démarche environnementale des entreprises artisanales et commerciales de la Chambre.
Voilà, c'est ça, c'est un label qui a été créé, oui, en région parisienne et qui permet de mettre en avant les bonnes pratiques sur l'environnement et pas uniquement, hein, c'est vraiment développement durable, donc on a aussi les aspects sociaux, sociétaux, donc tout ce qui est lié à l'accessibilité handicap par exemple et aussi tout ce qui est lié à la santé, sécurité au travail et puis l'aspect économique aussi, le développement pérenne des entreprises. Donc ça permet de mettre en avant tout ce qui existe déjà et puis de repérer un petit peu les pistes d'amélioration potentielles.
Alors, ce ne sont pas souvent les plus petites entreprises qui sont les moins vertueuses, ce sont plutôt les plus grandes qui n'ont pas toujours les bons éco-gestes, comme on dit. Vous avez la possibilité d'aller les voir, de vous entretenir avec les chefs d'entreprise?
Justement, c'est ce qu'on croit, que ce sont les plus grandes qui sont les plus vertueuses, mais alors elles le sont bien sûr, mais effectivement les petites le sont aussi à leur niveau. Mais comme elles sont petites, disséminées partout, on les connaît moins.
Oui.
Et donc effectivement on va à leur rencontre et le label leur permet justement de mettre en avant leur pratique et de dire ben moi je suis petit mais je fais plein de choses aussi à mon niveau.
Alors ce label consiste en quoi?
Alors il consiste à donc repérer les bonnes pratiques dans les entreprises, donc on va vraiment à la rencontre physique, hein, des entreprises, souvent spontanément, donc on prend pas forcément de rendez-vous, on y va, les gens travaillent mais ils nous accueillent 9,9 fois sur 10 très très bien et on leur prend demi-heure, une heure de leur temps pour lister toutes les bonnes pratiques existantes en matière de gestion de déchets, prévention de déchets, les éco-produits qu'elles peuvent utiliser dans le cadre de leur activité, les produits naturels, les partenaires locaux, les produits locaux, tout ce qui peut rentrer dans une démarche de développement durable et puis de pointer éventuellement des choses qu'elles pourraient faire, qu'elles font pas parce qu'elles y pensent pas ou voilà, et on voit ça nous avec elles en direct.
Ouais. Et le label est incitatif du coup?
Alors il est incitatif parce que c'est une démarche qui est gratuite pour eux. Alors on a des partenaires qui nous permettent justement de faire en sorte que les entreprises aient, que ce soit à moindre coût pour elles ou en tout cas à zéro coût. Et puis ça leur permet de bénéficier de la communication en fait surtout qu'il y a autour de l'opération. C'est-à-dire qu'on a une première phase de lancement où on convoque la presse en local hein, pour lancer l'opération au démarrage et ensuite on clôture avec les entreprises labellisées. Et ça leur permet d'avoir des relais presse et de communiquer aussi grâce au kit de communication qu'on leur remet dans le cadre de l'opération.
Ouais. Il y a deux niveaux de labellisation, standard et excellence, quelle est la nuance?
C'est le niveau d'engagement de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises, toutes celles qu'on rencontre, la plupart du temps font plein de choses et puis il y en a forcément qui sont allées plus loin parce que de manière déjà éco-citoyenne, hein, personnelle, elles font déjà plein de choses qu'elles ont appliquées dans leurs entreprises. Je pense par exemple à des fleuristes qui vont mettre en place du compostage de leurs déchets. Si elles n'ont pas forcément de solution au niveau de leur statut d'entreprise, des fois j'ai des fleuristes qui prennent leurs déchets verts de leur activité qu'elles ramènent chez elles. Et donc ces entreprises-là, il y en a certaines voilà, qui sont vraiment allées beaucoup plus loin que d'autres. Hein. Qui ont fait des investissements. J'ai un boulanger, il a acheté son véhicule de tournée qui est un véhicule électrique. Donc c'est quand même un cas assez rare quand même qui existe, donc ça veut dire qu'il peut être déployé.
Oui.
quand il y a des investissements plus lourds hein, au niveau économique, en tout cas pour l'entreprise, c'est forcément des gens qui auront un niveau de labellisation plus important. Ouais.
De plus en plus de villes en France, de départements sont gagnés par ce défi qui est toujours soutenu par l'ADEME. On aimerait bien que ça se propage et que ça devienne un dispositif national. Est-ce que c'est prévu? Vous avez des signes avant-coureurs à ce sujet?
Alors, on y travaille. On aimerait, c'est vrai que l'ADEME avait été partenaire au lancement, à la création du label, justement, en région parisienne. On a le soutien, en tout cas, aussi de programmes européens là-dessus. Donc, c'est vrai qu'on aimerait bien pouvoir déployer au maximum. Il y a d'autres chambres. Là, j'ai été contactée par mes collègues de Pays de la Loire, hein, il y a pas longtemps, là, pour justement le déploiement. Donc, c'est le cas. On a le réseau, nous, la tête de réseau des chambres de métiers qui est au courant de cette opération et qui va forcément travailler dessus pour harmoniser dans toutes les régions. Mais c'est un gros travail, ça, l'harmonisation nationale.
Ouais, très belle démarche. La durée est de 3 ans, renouvelable hein, pour le label. C'est pas à vie, hein, quand même.
Alors, c'est un choix qu'on fait ça en local. Donc, nous, en Charente, on a décidé qu'effectivement, il était valable 3 ans.
Ouais, vous avez raison. Ouais, parce que on n'est pas toujours tout le temps bon élève, donc c'est bien
de... Des piqûres de rappel régulières, oui. Aussi d'aller revoir les entreprises.
Ouais. L'éco-défi des commerçants, des artisans, il y a un site avec un lien que vous allez trouver à nos pages d'émission pour cette bonne initiative à la Chambre de métiers de l'artisanat de Charente. Merci Fantine.
Merci à vous.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
Un petit mot sur une société coopérative d'intérêt collectif, une SIC, qui a été créée pour maintenir la paysannerie dans le village d'Alou. Nous sommes au nord-est du département, village proche de Confolens. En 2014, la municipalité mettait sur pied une commission agricole dans le but de favoriser l'installation de nouveaux agriculteurs. Et pour ce faire, aidée par un producteur laitier tout juste retraité, elle a constitué une réserve foncière sous statut donc de SIC, à laquelle tout le monde peut participer, soit par un apport de terre, soit par un apport financier. Et des espaces tests sont mis à disposition des candidats à l'installation. La SIC s'appelle Champ du Partage. D'ailleurs, elle s'est partagée avec d'autres départements. Champdupartage.com. Sylvie Le Calvez, bonjour.
Bonjour Philippe.
Chère Sylvie, tout d'abord, très bel anniversaire au magazine Village. Vous venez de souffler donc vos 25 bougies.
Oui, et toujours plein d'énergie.
Ouais. L'acteur rural a pris ses aises et aujourd'hui correspond à... Ben, il répond à des besoins et puis il traduit une réalité qui va de l'avant, qui transforme, qui innove la ruralité. Ben, exemple aujourd'hui, la femme est-elle l'avenir de la ferme? Ça aurait plu à Jean Ferrat, ça tient. Pourquoi cette question?
Il y avait un petit côté, effectivement, en provocation presque, hein, en disant non seulement les femmes prennent de plus en plus de place dans les exploitations en nombre, puisqu'on est passé de 7% en 1970 à 24% aujourd'hui, donc c'est pas rien. Mais non seulement elles sont de plus en plus nombreuses, mais est-ce qu'elles changent quelque chose à la physionomie des exploitations? Et la réponse est oui. Oui, oui, souvent, ce sont elles qui sont à l'initiative de missions qui sont plus concernées par la santé, par l'accueil, par l'environnement. Et souvent, l'évolution des pratiques dans les exploitations, elle passe par les femmes.
Oui. Puis, dans les portraits que vous donnez dans ce dossier, on sent qu'il y a une volonté d'agir sur le terrain, de ne pas se retrouver reclus dans un bureau, à faire de la gestion pendant que l'homme est sur le terrain à s'occuper des animaux, des cultures.
Oui, ça c'est intéressant le reportage et l'enquête qu'ont mené deux de nos journalistes, hein, Stéphane Perrault et Axel Puig, c'était de dire quand on est sur un GAEC, donc un groupement agricole d'exploitation en commun homme-femme, la femme reste quand même cantonnée souvent aux tâches de gestion, communication, comptabilité, etc. Et l'homme va manier le tracteur. C'est encore quand même souvent comme ça, et avec parfois une dévalorisation des tâches, en disant « Oui, bah toi, en gros, t'es à la maison pendant que moi, je travaille sur le terrain. » Donc maintenant, il y a quand même des femmes qui disent « Il faut compter ce temps-là, montrer que c'est une vraie tâche à valoriser, voire même créer des groupes de femmes agricultrices pour se dire comment on peut valoriser ce travail-là. » Et puis, c'est d'apprendre aussi, quand elles le savent pas, mais souvent elles le savent, au moins à prendre la place pour, elles aussi, conduire le tracteur, aller soigner, bien sûr, les animaux, des gros bovins ou autre, ça dépend du type d'exploitation, en sachant rebricoler des outils pour que ce soit moins dur, Ce qui sert pour la femme en le mettant moins dur comme outillage va aussi servir à l'homme sur l'exploitation pour qu'il soit moins usé, moins fatigué. Donc là-dessus aussi, sur cet aspect social, hein, dans les fermes, la femme a quelque chose à apporter en matière d'adaptation du matériel.
Dans les données que vous rapportez, 73% des 111 800 femmes chefs d'exploitation selon les chiffres de la MSA en 2015, 73% sont issus du milieu agricole.
Oui, ça reste une réalité. Dans les lycées agricoles, notre journaliste me disait aussi, il y a maintenant quand même 50% de filles. C'est quand même...
Ah oui.
On arrive à l'égalité. Donc, on peut espérer une parité, même dans les chefs d'exploitation, même si on va pas dire que toutes les filles qui sont aujourd'hui en lycée agricole vont s'installer comme agricultrices. Hein. C'est un pas qui n'est pas encore franchi, mais néanmoins, les choses avancent. Aujourd'hui, il y a quand même, néanmoins, beaucoup de femmes qui sont issues du milieu agricole. Mmh. C'est le foncier qui est un handicap à ça aussi.
Ah, et puis, il y a des préjugés avec des clichés qui ralentissent l'expansion des femmes dans le milieu agricole. Vous donnez l'exemple de Sophie, viticultrice dans l'Aude, et quand elle est sur les marchés, les clients viennent la voir en disant « Mais vous êtes la fille de qui ?»
Oui, c'est un peu comme quand le commercial passe sur une exploitation agricole, c'est la femme qui arrive et il dit « Il est où le patron ?» quoi. Il reste encore des représentations où ça peut pas encore être la femme qui est chef d'exploitation. Mais ça bouge, on a aussi un témoignage d'une femme dans le dossier qui dit « Finalement aussi, ça m'a servi parfois d'être une femme, quoi, hein, pour tisser des liens, pour s'entraider, et je l'ai plutôt vécu comme un atout. » Donc je crois que les choses bougent, mais c'est comme toute la société, quoi, hein, que ce soit dans le monde agricole ou autre, des choses à faire évoluer. Je pense que néanmoins, les associations qui regroupent des femmes, qui travaillent ensemble à l'évolution de ce métier, ce statut, ce côté très collectif de l'agriculture, jouent un rôle favorable pour faire évoluer les choses.
Alors j'ai dit 111 800 femmes chefs d'exploitation, 387 000 salariés EES agricoles, dont 83% en CDD, et en moyenne une rémunération de 6% inférieure à celle des hommes.
Oui, on retrouve ce qu'on retrouve dans les autres branches salariales, hein. Donc il y a pas de différence. C'est pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que les arrêts maternité, etc., font qu'on retrouve ce qu'on retrouve dans les autres univers du salariat, malheureusement.
La femme est-elle l'avenir de la ferme, à lire dans le nouveau magazine Village de ce printemps. Le site, c'est villagemagazine.fr, tout simplement. Et merci à nos confrères de France Bleu Normandie Caen pour ce duplex avec vous. Et à nouveau, donc, bel anniversaire.
Merci beaucoup, Philippe, et puis à bientôt.